Qu'y a-t-il à l'intérieur de la noix? Il faut se rendre à l'évidence. Le plus grand écrivain belge de l'heure est flamand. Il s'appelle, est-il encore utile de le préciser, Tom Lannoy. Et il doit ce titre à la plus évidente des qualités. Il a un talent fou et tout pour être tenu un jour pour un géant des lettres. D'abord, il y a l'ampleur de sa présence sur les scènes, sur les écrans, sur les étals des libraires. Au théâtre, il donne l'impression d'être partout. Cet été, sa pièce sur Gilles de Rais était montée par un autre flamand de haut lignage, Guy Cassirs, dans la cour du Palais des Papes. Ce ne fut pas dans la presse française un triomphe, mais l'événement fut suffisamment répercuté pour frapper les esprits. Toujours dans le registre du théâtre, mais cette fois, les surtitres sont en néerlandais, à l'inverse de ce qui s'est passé en Avignon. On peut voir, depuis cette semaine, sa pièce « Mama Medea », d'après Euripide, jouée par le Rideau de Bruxelles, non pas auprès des Beaux-Arts qui abritaient la compagnie depuis bientôt 70 ans, mais dans un centre culturel flamand à Skarbek de Krikelaar, et une mise en scène d'un coming man du théâtre francophone, Christophe Sermet. Le symbole, dans une Belgique qui est en train de se reconstituer, ne manque pas de sel. Mais surtout, après quelques représentations au KVS, à savoir le Théâtre Royal Flamand de Bruxelles, Lannoy, en personne, sillonne la Flandre avec un one-man show inspiré de son roman « Sprakeloos », qui a paru à la différence sous le titre « La langue de ma mère » dans la version française d'Alain Van Crukten, traducteur attitré de Lannoy, comme il fut celui du Chagrin des Belges de Hugo Claus. Le spectacle est une démonstration stupéfiante de présence scénique. Lannoy, durant presque 3 heures, donne corps et voix à son roman, drôlatique et tragique, hommage flamboyant à sa mère, comédien amateur, qu'un accident cérébral priva de l'usage de la parole. Mais ce n'est pas tout. Tandis que Lannoy brûle les planches, la télévision flamande diffuse, et ce pendant 10 semaines, l'adaptation de son roman « A Troodeloke Monster », qui pourrait s'appeler « Le divin monstre », quand il paraîtra en français, Gallimard y songe. C'est le portrait charge au vitriol d'une société flamande représentative de la dégénérescence politique qui ébranle actuellement l'Europe sur ses bases. Lannoy y dissèque au scalpel une communauté repue et vérolée par le virus nationaliste. Il y retrouve son imparable lucidité de pamphlétaire, dont ses dévastateurs éditoriaux dans l'hebdomadaire Humo, il y a quelques années, avaient donné quelques mémorables échantillons. Lannoy, un des Cataloniens de la culture, une machine de guerre qui propulse ses fusées porteuses dans toutes les directions et dont le premier carburant pourrait bien être le génie. Tom Lannoy, à peu près 50 ans. C'est un homme à l'apparence très jeune, pas très grand, portant des petites lunettes qui le caractérisent, et qui d'ailleurs avait publié à ses débuts un livre qui s'appelle « Un slagersohn mit en brilleke », c'est-à-dire « Un fils de boucher avec des petites lunettes ». Il vient de là. C'est effectivement un fils de commerçant de Saint-Nicolas, dont la mère était non seulement l'assistante de son mari dans le magasin, mais une comédienne amateur passionnée, et c'est sans doute par cela, il le dit d'ailleurs lui-même, que le jeune Tom a été initié au théâtre, et qui est indiscutablement sa première passion, parce que Lannoy donc fait des études de philo germanique à Gand, je crois, oui à Gand. Apprend l'anglais et l'allemand, ce dont on aura quelques démonstrations par la suite. Se spécialise en littérature néerlandaise, connaît à fond la littérature flamande, et très curieusement s'identifie à ces géants. J'ai des souvenirs de Lannoy que j'ai rencontré il y a déjà pas mal d'années, mais dont je suis un peu le parcours depuis le départ, où il aimait, par exemple, en tant que jeune écrivain débutant et n'ayant pas tellement d'état de service, poser dans des photos avec Hugo Claus et Gérard Warskop. Gérard Warskop, un grand écrivain flamand de l'entre-deux-guerres qui vivait encore à l'époque, et donc qui se donnait pour le petit-fils de Warskop et le fils de Claus. Ce qui apparaissait à la fois comme un gag et comme de la forfanterie, et peut-être même un peu d'orgueil démesuré, mais qui allait se démontrer plus justifiée qu'il n'est paraissait par la suite. Il commence par des textes assez brefs, donc il rassemble sous le titre du fils de Boucher. Il fait une chronique humoristique dans l'hebdo Humo, qui est un hebdomadaire qui n'est plus ce qu'il a été, mais qui a été certainement dans les années 70, 80, 90, le plus grand porteur d'idées neuves en Flandre. Pourtant, c'est l'équivalent flamand du Moustique, magazine de télévision, mais qui était dirigé avec beaucoup d'énergie et une volonté de secouer la société flamande, de la sortir de ses conformismes politiques, religieux, intellectuels. Ce qui, évidemment, n'était pas du goût de tout le monde. Mais si on veut aujourd'hui comprendre comment la Flandre a évolué, comment il se fait qu'une génération de politiciens de moins de 40 ans a redressé le tir, l'historien du futur devra se pencher, par exemple, sur le corpus de Humo. Humo était un magazine dans lequel, pour la première fois, on parlait ouvertement d'homosexualité en Flandre. Pas du tout, parce que le magazine s'appelait Humo, il ne voulait pas s'appeler Homo pour autant. Et Tom a été un des premiers pour entendre ça, parce que, si j'ai bonne souvenance, il n'est peut-être pas le tout premier à s'être marié en tant qu'homosexuel en Belgique, mais un des premiers. Et en tout cas, le mariage de Tom Lannoy à Anvers, il y a de ça maintenant une vingtaine d'années, a été, il s'est arrangé pour ça, extrêmement médiatisé. Parce qu'il y a une chose tout à fait intéressante chez lui, c'est qu'il combine un sens du spectacle et une espèce d'ostentation comme ça spectaculaire avec une fantastique capacité de concentration et de travail. Et le secret de Lannoy, par exemple, les francophones ne s'en sont pas encore enquis, c'est qu'il vit une double vie. Il vit à la fois en Belgique et en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il a deux domiciles, un à Anvers et un au Cap. Et comme il le dit lui-même, ses livres s'écrivent au Cap. Donc on ne peut pas mieux pratiquer la retraite intellectuelle que de cette façon-là, absolument extrême. Du septentrion, au plus sud de la pointe de notre continent vertical, Europe-Afrique. Il ne m'étonnerait pas d'ailleurs que dans les combats que va mener Lannoy à l'avenir, il y aura un très grand investissement sur l'Afrique. Mais en attendant, il a épousé la cause homosexuelle d'une manière extrêmement stratégique comme toujours chez lui, c'est-à-dire pas du tout de manière provocante, mais plutôt gentille. Par exemple, tout récemment encore, il dînait avec quelques francophones à Bruxelles, et à un moment donné, il dit « oui, je disais justement à mon mari ». Et alors, bon, les gens le regardent 30 secondes, et puis comprennent, et puis la conversation continue. Donc cette façon comme ça d'intégrer l'insolite, ou le provisoire insolite, est très dans son esprit. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et dont l'intelligence s'accompagne évidemment d'une énorme dose d'humour. C'est pour ça aussi que les historiens du futur vont devoir constater que la plus terrible machine de guerre contre Bart de Wever, c'est Tom Lannoy. Parce qu'ils sont à égalité dans l'humour, mais pas à égalité dans l'intelligence. C'est que de Wever est quelqu'un d'assez délié intellectuellement, mais dont on voit bien qu'il a un blocage face au réel, c'est-à-dire qu'il ne passera pas à l'acte, alors que Lannoy est quelqu'un qui est tout le temps, si l'on peut dire, passe à l'acte. Mais ce qu'il fait, c'est une espèce d'assez extraordinaire éventail d'activités littéraires et théâtrales, c'est-à-dire que ça va de textes satiriques au vitriol, comme je dis, sur telle ou telle chose qu'il constate et qui lui déplaît, jusqu'à, par exemple, Mama Medea, qu'on voit cette semaine au Criquelard. C'est un travail presque philologique sur la tragédie d'Euripide qu'il amène à la modernité. Il a fait un travail magistral qui a été adapté d'ailleurs par Alain Van Cruchten sur les pièces historiques de Shakespeare. Il a retravaillé le tout, donc tout le corpus depuis Henri II jusqu'à Richard II, en un seul grand spectacle de 8 heures qui s'appelle Ton Urlaub et qui a eu un immense succès en Allemagne, monté par Luc Perceval, qui est un metteur en scène flamand, qui fait sa carrière en Allemagne, et qui dirige d'ailleurs la Showbühne de Berlin. Maintenant, il est sur un projet qui s'appellera Les Russes, et dans lequel il brasse pratiquement tout le corpus tchékovien en une seule grande pièce. On sait que la pièce qui a été jouée en Avignon était, elle, inspirée de Gilles de Rais. Il y a d'ailleurs une très curieuse filiation à faire avec deux autres écrivains belges notoires, c'est-à-dire d'un côté Pierre Mertens, qui avait fait son livret sur Gilles de Rais et Jeanne d'Arc pour Philippe Boussemans, dont j'ai vu une version sans musique montée aux Pays-Bas il y a une quinzaine d'années, et qui donnait très bien. C'est-à-dire le texte de Pierre est tout à fait autonome par rapport à la musique. Et de l'autre côté, il y avait un monologue de Hugo Claus, qui s'appelle Gilles, d'ailleurs, et qui a été écrit par Claus pour un comédien flamand, mais dont il avait très longtemps été question qu'il soit joué en français par Depardieu. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais la pièce a été jouée au public il y a deux saisons de cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il a pris lui aussi possession du mythe Jeanne d'Arc? En partie, je crois, parce qu'il est à la fois très original et très soucieux de s'inscrire dans des continuités. Et là, encore une fois, rappel du pied aux chercheurs futurs, il y a une grande étude à faire sur le traitement du sujet de Gilles de Rais, successivement par Mertens, Claus et Lannoy. Évidemment, on me rétorquera tout de suite qu'on ne peut pas faire ce genre d'études en Belgique, puisque ou bien on étudie Mertens et on est romaniste, ou bien on étudie Lannoy et Claus et on est néerlandiste, germaniste. Ce qui met en question évidemment la possibilité d'imaginer qu'il existerait une littérature belge. Alors, la chose qui actuellement me frappe terriblement, c'est que, comme toujours, la littérature prend de l'avance sur le reste de la société, comme la culture le fait. Et aujourd'hui, on peut parler, à mon avis, de littérature belge, expression que je suis un des rares à avoir utilisée systématiquement, en disant « on est écrivain belge de langue néerlandaise, on est écrivain belge de langue française ». Sur la notion de belge de langue française, on entre très simplement dans la grande polémique entre « existe-t-il une littérature belge d'expression française ou une littérature française de Belgique ?» Moi, j'ai toujours préféré l'adjectif « belge » en précisant derrière que c'était français lorsque c'était nécessaire. Or, j'ai moi-même eu la faiblesse de dire à un moment donné que nous pouvions d'autant plus tranquillement la revendiquer que les Flamands ne la revendiquaient pas. Donc, on était une sorte de littérature belge par déduction ou par soustraction. Les Flamands voulant être écrivains flamands, nous, on prenait les Belges pour nous. Les Flamands, pas si sots, et Lannoy est certainement le moins sot de tous. Il le dit d'ailleurs clairement dans son article de la revue A, dédié aux Flamands, il dit « Pourquoi est-ce que nous, Flamands, nous lâcherions la Belgique ? Nous y sommes majoritaires. En plus, si nous voulons notre indépendance, nous n'aurons jamais Bruxelles. Or, Bruxelles nous est absolument indispensable. Donc, restons Belges. » Et il le dit, je dirais, de façon assez, assez plate, prenant le contre-pied de De Wever sur le même ton que lui. Oui, mais là aussi, encore une fois, il a été le flamand en vue qui a dit ça le plus clairement, alors que maintenant, on entend tous les représentants politiques de la majorité tenir à peu près le même langage. Donc sur cette idée de la complexité. Alors il est évident que tout portait Tom Lannoy à être le héros de ça, parce qu'il avait dû se battre au sein de sa propre communauté et même au sein de sa propre famille pour son identité particulière. Parce que dans le livre donc, la langue de ma mère, dans Sprach los, il a un passage qui est à la fois très très drôle, même désopilant, et en même temps pathétique, où il vient le moment de son coming out en famille, et où il doit annoncer à sa mère qu'il adore, et à laquelle il a une dette énorme dont on a parlé tout à l'heure, qu'il est homosexuel. Alors sa mère lui répond qu'à la limite, elle aurait préféré apprendre qu'il était noir. Donc on voit un petit peu d'où ça sort, et je crois qu'il y a quelque chose chez Lannoy qui le place aux antipodes absolus de De Wever. Et sa visibilité actuelle du côté francophone et sa grande visibilité du côté flamand est la seule riposte possible à la stratégie de De Wever. Sauf que De Wever, d'une certaine manière, est un usurpateur culturel, dans la mesure où il est en train, comme disent les Anglais, de tout style de show, mais alors qu'il n'est pas un artiste. Ou alors on dit de lui, comme j'ai dit récemment à la VRT, qu'il est un stand-up artiste, mais rien de plus. Mais un homme politique n'a pas à prendre la place d'un artiste, tandis qu'un artiste peut adopter un discours politique, ce que fait Lannoy. Alors, parlons maintenant de cet autre phénomène qui est la série télé. 10 heures de fiction télévisuelle, même plus, qui développe donc ce roman, qui est un roman qui tient à la fois des Buddenbrooks, c'est-à-dire grande chronique familiale, autour d'une famille de producteurs et d'industriels du tapis du quartier de Courtrai, suivez mon regard, famille dont certains modèles ont notamment fait l'objet d'une affaire retentissant de quelques années avec enlèvement d'enfants, rançon, etc. Et où il montre bien que la Flandre est gangrénée par une forme d'égoïsme qui est un égoïsme économique. Mais un égoïsme économique qui n'est pas seulement collectif, qui est aussi le propre d'une certaine, entre guillemets, élite ou superstructure bourgeoise et possédante. Et son regard là-dessus est d'une virulence inimaginable, au point que moi-même, regardant certains épisodes, je me dis, mais comment est-ce que la VRT a-t-elle pu donner son accord dans la production d'un produit aussi dévastateur? Et là, encore une fois, on voit que la Flandre est beaucoup plus complexe, beaucoup plus multiple qu'on ne le pense, que nous avons eu du côté francophone une vision beaucoup trop schématique, par manque de curiosité réelle, par manque d'attention suffisamment développée, et nous n'avons pas vu arriver les signaux. Mais maintenant, ils sont là massivement, et ils se trouvent largement incarnés par Lannoy, parce que je n'en vois pas d'autres. Il y a bien sûr Dimitri Verhulst avec de Hélas Derding, La merditude des choses, etc., qui lui est un écrivain flamand qui est carrément allé s'installer en Wallonie. Ça aussi, c'est un phénomène pas du tout négligeable. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement réjouissant de se dire qu'une fois de plus, ça s'est passé tant de fois dans l'histoire des civilisations, c'est l'attitude des artistes qui préfigure l'évolution globale de la société. Alors, autre petit aspect du problème à étudier, c'est de se demander comment il se fait que tous ces phénomènes artistiques soient possibles dans un contexte de politique culturelle d'une communauté que l'on aurait, nous, tendance à juger plus conservatrice que la nôtre, alors qu'en fait, elle réalise des choses fabuleuses. Et je crois que là, il y a matière à un autre débat que nous n'essayerons pas d'épuiser aujourd'hui.